Lacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à 16h et je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant une heure en compagnie de ma charmante camarade Ombline. Bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour Olivier, bonjour à tous, ça va
bien. Bonjour. Merci. Pendant cette heure, nous partageons vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou plus difficiles, car Europe 1 s'intéresse à votre vécu. Quelques kilos en trop sur la balance, des poignées d'amour ou quelques bourrelets, et c'est le drame. Dans certains cas, le poids peut devenir une obsession et la nourriture une source de culpabilité, voire même d'angoisse. Certaines personnes comptent les calories, se pèsent plusieurs fois par jour et peuvent développer des troubles du comportement alimentaire, mettant même leur santé en danger. Car dès l'enfance, nous intégrons la norme du corps mince. Elle est véhiculée par la publicité, par les magazines ou par les réseaux sociaux. Des régimes en tout genre, des pilules et des crèmes promettent des effets miracles et entraînent des personnes qui souffrent de complexes dans un contrôle permanent de leur apparence physique. Alors comment apprivoiser son corps ? Comment lâcher prise et se réconcilier avec la nourriture, notre poids, comment sortir de cette obsession, c'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, nous attendons vos histoires, nous sommes là pour vous écouter.
Jusqu'à 16h, vous composez le 3921, le standard d'Europe 1, vous nous écrivez sur Twitter, hashtag Europe 1, et vous réagissez bien évidemment, comme chaque jour, via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Maxime sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Maxime.
Bonjour Olivier.
Comment allez-vous ?
Très bien, merci.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
Alors, je vous appelle Denis et j'ai 36 ans.
D'accord. Alors Maxime, vous, dès l'âge de 12 ans, on vous a fait remarquer que vous aviez peut-être quelques petits kilos en trop et on vous a conseillé un régime. D'ailleurs, qui vous a dit ça ? Est-ce que c'était un médecin ou vos parents ? Enfin, qui ?
C'était un médecin. Tout à fait, c'était le pédiatre qui me suivait à l'époque, certainement également renforcé par les infirmiers scolaires.
Oui.
Et donc, forcément, à l'époque, mes parents ont réagi, puisque quand on vous dit que votre enfant est hors norme, vous réagissez. Et j'ai en effet été voir un diététicien et j'ai commencé mon premier régime à l'âge de 12 ans.
Alors, avant de vous demander si cela a une influence sur le rapport que vous avez aujourd'hui sur votre corps, déjà à l'âge de 12 ans, lorsqu'on parle de kilos en trop, quelle influence là ?
Quand tu as 12 ans, vous êtes en pleine adolescence, au début de l'adolescence, et que le corps est en train de se former, forcément ça a une incidence négative. Et le vécu que moi j'en ai eu à ce moment-là, ça a été très négatif sur le paraître et l'impression que j'avais de mon corps.
Mmh. Ça a dû entraîner un complexe permanent chez vous ?
Ah, complètement. Mmh. Ah oui, le mot complexe d'ailleurs est bien trouvé. Oh, oui, c'était ça. C'était à partir de ce moment-là, je crois que j'ai commencé à réaliser que mon corps n'était pas comme les autres. En tous les cas, ce qu'on me disait n'était pas comme les autres. Et du coup, en effet, j'ai commencé à complexer sur 2-3 kilos en trop. Donc ce n'est rien, 2-3 kilos en trop. Mmh.
Ça a eu une influence sur le rapport que vous entretenez avec votre corps ensuite, les années passant ?
Oui, bien sûr, parce qu'à partir de ce moment-là, je suis rentrée dans une spirale infernale. Premier régime, donc vous perdez du poids, vous en reprenez le double, et puis vous grandissez, vous évoluez, et puis petit à petit, vous essayez tous les régimes de la Terre, parce qu'encore une fois, on vous dit, je dis bien on, le monde extérieur, que vous n'êtes pas dans la norme, et du coup, on vous y croyez. Dur comme fer, que vous n'êtes pas comme tout le monde. Mmh. Et quand aujourd'hui je regarde des photos de moi à l'époque, je me trouve bien.
Ouais, ouais.
Donc oui, forcément, ça a eu une incidence. Je suis rentrée dans la spirale des régimes et il y a eu bien évidemment d'autres circonstances qui ont fait que j'ai pris du poids. J'ai eu deux enfants, j'ai eu un problème de thyroïde. Il y a eu plein de choses qui l'expliquent, mais au final, je me suis retrouvée il y a un an en obésité.
Ouais. J'allais justement vous parler du poids comme obsession, puisque lorsqu'on vous parle dès l'âge de 12 ans de votre poids, en fait, on a l'impression que vous parlez d'un poids qui est devenu comme une petite musique dans votre tête et qui est devenu une obsession finalement pour vous.
Complètement. Oh oui, complètement. Déjà à l'époque, en étant plus jeune, j'avais cette obsession de vouloir être fine comme tout le monde, sans pour autant faire des régimes drastiques, etc. Mais oui, j'ai toujours eu cette obsession du poids, cette obsession d'être comme les autres.
Mmh. L'année dernière, vous avez décidé de perdre du poids, car vous aviez peur que vos enfants subissent des moqueries à l'école à cause de votre apparence à vous. Vous êtes lancé dans quoi exactement ?
Eh bien, j'ai été suivie par une coach en nutrition qui pratique de la micronutrition et qui a su me parler tout de suite en me disant qu'on n'allait pas faire un régime mais un rééquilibrage alimentaire, que j'allais être suivie également par le corps des médecins et qu'on allait faire des analyses pour voir ce qui n'allait pas. Et elle m'a suivie et elle me suit encore au quotidien pour, c'est vraiment du coaching mental comme du coaching aussi sur ce que je peux manger, ce que je dois adapter.
Oui.
Et ça m'a permis aujourd'hui de perdre 27 kilos.
Alors, vous avez perdu 27 kilos. Est-ce que vous avez eu l'impression de vous priver en étant obligé de beaucoup contrôler votre alimentation ?
Ce serait mentir que vous dire non. Disons qu'à partir du moment où j'ai intégré l'idée que je ne faisais pas un régime, mais un rééquilibrage alimentaire, déjà, psychologiquement parlant, ça allait mieux. Parce que le mot régime, c'est privation.
Ouais.
Je me suis privée, oui, puisque je ne mange plus de sucre, je ne mange plus de féculents, je ne bois plus d'alcool, enfin tout ce qui peut faire grossir, entre guillemets. Mais à côté de ça, j'ai aujourd'hui trouvé des parades qui me permettent de me faire plaisir. Donc oui, je me suis privée parce que je n'aurais pas réussi à perdre autant de poids, mais je ne l'ai pas si mal vécu que je ne le pensais. Au début, oui, bien sûr, les premiers temps sont compliqués, mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux.
Aujourd'hui, on entend que vous arrivez à vous faire confiance, en tout cas que vous arrivez à aimer votre corps. Dans une société pourtant où une femme ronde n'est pas acceptée et ne peut pas s'aimer normalement, est-ce que aujourd'hui vous êtes arrivé au poids qui vous convient et qui vous permet d'évoluer tranquillement, en fait, sereinement ?
Non.
Pas encore.
J'y suis pas arrivée. Non, j'y suis pas arrivée. Il me reste encore du poids à perdre. Il me reste surtout à faire un énorme travail sur moi-même.
Oui.
C'est-à-dire à accepter que je ne serai jamais comme les diktats de la mode et de toutes ces publicités et de tout ce que l'on voit. Enfin, en gros, que c'est pas ça la réalité, que la réalité est autre, mais il faut que j'arrive à l'intégrer. Parce que finalement, ça fait plus de 20 ans que j'entends le contraire. Donc ça, c'est un autre problème.
Ouais. Cette société que vous évoquez, à travers, je suppose, la publicité, en tout cas la représentation de la femme, elle a un réel poids. C'est une pression permanente pour tout le monde, y compris pour vous.
Oh oui, complètement, parce que il y a des vêtements qui vous plaisent et puis finalement, quand vous êtes ronde, vous pouvez pas les mettre, donc vous vous sentez rejetée. Il y a les candidatons, il y a les regards des autres, il y a ce qu'on voit à la télé et puis la réalité de la vie qui n'est pas forcément ça. Mais vous avez du mal à l'emmagasiner, tout ça.
Bon, en tout cas, moi j'ai envie de vous dire que 27 kilos, ça n'a pas dû se faire en un jour et que vous avez dû sacrément vous faire violence. Et pour ça, vraiment bravo. Et puis je me dis aussi que quand on a perdu 27 kilos, les quelques petits derniers qui sont souvent les plus difficiles à perdre, mais vous connaissez la méthode et vous avez fait preuve déjà d'un courage énorme. Merci beaucoup Maxime pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi. Dans un instant, nous accueillerons Isabelle. Elle a souffert pendant très longtemps de troubles du comportement alimentaire et elle est aujourd'hui orthorexique, c'est-à-dire qu'elle est obsédée par le fait de manger sain.
Europe 1.
Quand chaque prise de kilos vous fait souffrir, vous cherchez continuellement à mincir et votre poids est devenu une obsession, votre nourriture aussi, comment lutter contre ça ? On vous écoute au standard d'Europe 1, le 39-21. Jeune fille, femme, un petit peu ronde, vous êtes magnifique, crie Mika. Pourtant, vos formes, vous ne les supportez pas. On parle de l'obsession que vous avez, de votre poids, avec Olivier Delacroix. Comment arriver à s'accepter ? Vous nous le dites au 39-21.
Et dans la première partie de cette émission, nous avions Maxime au 39-21 qui nous expliquait avoir perdu déjà 27 kilos, mais ne pas tout à fait encore s'accepter et en avoir encore quelques-uns à perdre pour arriver à se faire confiance et à évoluer bien dans sa peau. Nous sommes maintenant avec Isabelle. Bonjour Isabelle, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier.
Quel âge avez-vous Isabelle ?
J'ai 55 ans.
D'accord. Alors Isabelle, vous très jeune, à cause de complexes d'adolescente, vous avez commencé à développer des troubles du comportement alimentaire. Expliquez-moi lesquels.
Alors disons que ça a commencé, je pense. D'après mes souvenirs, j'avais 11 ans. Et d'après mes souvenirs, voilà, j'ai plongé dans ce qu'on appellerait aujourd'hui l'hyperphagie. C'est-à-dire le fait de manger de façon compulsive, sans compensation. Ni par les vomissements, ni par le sport, ni par tout ça. Et ça a duré quasiment 40 ans.
D'accord. Quasiment, donc autour de 52 ans, 53 ans ?
50.
Je suppose que ça a mis votre santé en danger.
Oui, parce que bon, j'ai commencé par donc ce qu'on appelle aujourd'hui l'hyperphagie. Le mot, on n'employait pas en tous les cas beaucoup à l'époque. Hein. Ensuite, à 28 ans, là, pour la première fois, j'ai basculé dans des périodes anorexiques, réellement.
Oui.
Ensuite, de boulimie, c'est-à-dire que cette fois, je me faisais vomir. Hein. Avec, alors après, à la clé, ça a été des hospitalisations, bon, des tas de comportements à côté un peu déviants.
Oui.
Et donc, effectivement, une mise en danger de la santé pendant très longtemps. Mm-hmm. Et puis surtout, une vie quotidienne qui était
bouleversée,
détruite.
Oui. Oui. Vous dites que vous avez passé une grande partie de votre vie à éviter le regard des autres, que vous aviez honte de votre corps. Pourquoi, en fait, éprouver cette honte, ce corps qu'est-ce qui vous renvoyait, ce corps?
Je pense, bah, il faut dire aussi que quand j'avais 11 ans, il y avait plus, je pense que il y avait plus de filles quand même assez fines.
Hein. Oui.
Moi, dans ma classe, il y avait peut-être une ou deux rondes, quoi.
Mm-hmm.
Je pense que les choses ont évolué relativement vite après. Et donc, voilà, très vite, je me suis heurtée à des réflexions qui étaient humiliantes. Hein. Jamais de l'intérieur de ma famille d'ailleurs, hein. C'était toujours voilà,
à l'école,
voilà, principalement à l'école, voire même d'ailleurs parfois avec des enseignants qui, il y a des je pense que beaucoup de filles comme moi ont souffert notamment des profs de gym, hein.
Oui,
des séances
oui.
de pesée, mesure en début d'année scolaire qui étaient particulièrement traumatisantes devant tout le monde, hein.
Mm-hmm.
Et je pense qu'après ça a renforcé. Alors qu'au départ, j'avais quoi? J'avais peut-être 5 kilos de trop, quoi.
Mmh.
Je pense que ça a renforcé après le sentiment de ne pas être comme les autres, de culpabilité, d'être laide, d'associer la laideur avec le poids.
On peut comprendre.
Et après,
hein. On peut comprendre qu'un professeur de sport, dans une pesée générale devant toute la classe qui fait part de vos quelques kilos en trop, cela peut avoir un impact énorme sur un enfant.
J'ai jamais oublié la phrase qu'elle a dite. Elle a annoncé mon poids, ma taille, comme elle faisait pour les autres d'ailleurs, et elle a dit, tu sais ce qu'il te reste à faire, il faut arrêter les bonbons.
Bon,
et je ne mangeais pas de bonbons en plus.
Mmh. Heureusement, aujourd'hui, je pense que nos professeurs de sport sont un peu plus formés et font plus attention à ce type de remarques. Vous dites que la nourriture était pour vous une stratégie d'évitement. Manger vous permettait d'enfouir les émotions négatives. Expliquez-moi pourquoi.
Totalement. Je me suis servie. En fait, bon, je suis très vite tombée malade. En fait, voilà, c'était de l'ordre de la maladie réellement.
Oui.
Et je me suis servie de cette maladie pour éviter, au fur et à mesure. Alors au départ, peut-être des choses qui me faisaient réellement peur que je savais identifier. Et je pense qu'au fur et à mesure que le temps passait, c'est devenu des stratégies d'évitement de choses qui devenaient tellement infimes. Hein, que je savais même plus ce que j'évitais.
Mmh.
Au départ, c'était une chose toute bête, c'est que par rapport à cette expérience assez traumatisante de la pesée au collège, hein, j'étais en quatrième à ce moment-là, quand je suis rentrée en seconde, j'étais tellement persuadée qu'on allait nous repeser, qu'il y aurait une nouvelle humiliation, que je suis réellement tombée malade de troubles du comportement alimentaire.
Ouais, ouais.
Et donc, j'ai manqué un mois d'école sans jamais dire. Je refusais d'aller à l'école sans jamais dire que c'était par rapport à mes questions de poids. Je ne voulais pas affronter ça, c'était pour moi totalement impossible.
Mmh.
Et après, chaque fois que j'ai été en situation difficile dans ma vie, j'ai redéveloppé, je retombais dans des crises. Alors, et après, ça a été par l'absence de nourriture.
Mmh. On voit combien cette époque de l'école, hein, et de ses réflexions, du regard, des réflexions des professeurs, du regard des autres, et sans doute quelques mots vous définissant de la part de camarades ont été violents, combien ils ont été violents et combien ils ont eu d'impact sur vous. Depuis quelques années, vous vous définissez comme orthorexique. Qu'est-ce que cela signifie exactement ?
Alors, je me suis mise à la suite de petits problèmes de santé assez anodins, finalement, qui n'avaient pas de caractère de gravité, mais qui empoisonnaient ma vie quand même,
hein, oui.
à m'imaginer que j'étais intolérante au gluten et au lactose. Ce qu'au bout du compte, je n'étais pas, mais à l'époque, c'est ce que j'ai cru. Et du coup, je me suis jetée à fond dans la nourriture sans gluten, sans lactose. Du coup, je me suis énormément renseignée.
Oui.
Et je suis passée à une alimentation en allant de plus en plus sur Internet, sur des sites, tout ça. Je suis passée donc à une alimentation bio, totalement, alors que je ne mangeais que des plats préparés. On avait une alimentation extrêmement de mauvaise qualité. Et Je me suis mise à absolument tout surveiller dans mon alimentation, qu'il n'y ait pas de gluten, qu'il n'y ait pas de produits laitiers animaux, qu'il n'y ait pas d'additifs, qu'il n'y ait rien de ce que j'imaginais toxique pour moi. Et paradoxalement, c'est quand même ce qui m'a fait sortir des troubles du comportement alimentaire.
Ça vous a permis de stabiliser votre poids ?
Alors, totalement. Oui. Bon, après, là, j'ai découvert, je pense, à la suite de ça, que j'étais génétiquement mince, en fait. Oui. Ce que je n'avais jamais su, puisque j'avais toujours été soit dans l'absence de nourriture, soit dans l'excès de nourriture. Donc, je ne savais pas, finalement, quel était mon poids.
Vous êtes toujours angoissée aujourd'hui à l'idée de reprendre quelques kilos ?
Oui. Oui. Oui, alors que bizarrement, depuis 5 ans, mon poids n'a absolument plus bougé et qu'il est bas.
Oui.
Mais oui, ça me. Je pense que d'ailleurs, je me pèse plusieurs fois par jour.
Oui, oui.
Je suis capable de me peser 5-6 fois dans la journée, sans aucun problème. Alors que je sais même pas pourquoi, mais peut-être une ancienne angoisse, je pense, d'avoir vécu avec.
Avant de nous quitter, j'ai une dernière question que je ne vous ai pas posée depuis le début. Est-ce que vous avez été suivi psychologiquement et est-ce que vous avez obtenu des réponses, hormis le fait que l'impact des réflexions des profs de sport et puis des copines malvenues ait eu un impact certain sur vous, mais est-ce que vous avez eu un suivi psychologique et est-ce qu'à un moment vous avez pu poser des mots sur cette alimentation, ce comportement alimentaire désordonné ?
À plusieurs reprises, oui. D'abord, quand j'étais hospitalisée régulièrement, donc on me faisait rencontrer des psychiatres, j'ai suivi une psychanalyse, mais honnêtement, ça n'a jamais eu d'effet. Je ne suis jamais, je pense, tombée sur les bonnes personnes qui étaient formées à ça. Je pense qu'il n'y a pas tant de médecins que ça qui sont formés à ces pathologies. Et donc, en fait, je dirais que c'est quand j'ai arrêté de voir des médecins et arrêté de prendre des médicaments pour ça, que finalement, j'ai guéri toute seule.
Mille fois merci Isabelle pour votre témoignage au 39-21 cet après-midi. Dans un instant, nous allons accueillir le docteur Gérard Apfeldorfer. Il est psychiatre, psychothérapeute et auteur du livre « Maigrir, c'est simple » et « Dans la tête ». Paru aux éditions Odile Jacob.
Et Chloé qui témoigne au 39-21, j'ai 40 ans, je suis obèse, je fais depuis l'adolescence des régimes à répétition, j'ai perdu, j'ai repris, je n'arrive pas à stabiliser mon poids. C'est difficile d'être en paix avec soi-même quand on a des problèmes de poids.
Europe 1.
Obnubilé par des kilos en trop, vous surveillez en permanence votre alimentation. Comment ne pas devenir accro de sa balance ? Êtes-vous arrivé à vous en libérer ? Vous nous racontez au 39-21.
Il existe une fille qui n'a plus goût à la vie. Ce petit bout de fil apparaît-il perdu l'appétit. On l'appelle ficelle, celle au ventre noué. Celle qui flotte dans ses jeans et qui n'aura jamais de bouée.
Cette fille dont nous parle le chanteur et musicien Cyrano qui s'appelle Ficelle, elle n'est plus longiligne, elle est filiforme. Vous aussi vous flottez dans vos jeans, la nourriture est devenue votre ennemi. Comment se libérer de l'obsession de son poids ? Vous êtes avec Olivier Delacroix, 39-21, pour nous raconter.
Et nous allons maintenant en parler avec le docteur Gérard Apfeldorfer, psychiatre, psychothérapeute et auteur de l'ouvrage « Maigrir, c'est simple et dans la tête » paru aux éditions Odile Jacob. Bonjour docteur, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Oui, bonjour, merci de m'accueillir.
Mais je vous en prie. Alors, ce poids qui est au centre d'un pas mal de questionnements pour pas mal d'entre nous, cette question, elle est si importante dans notre société ?
Ah oui, tout à fait, c'est quelque chose d'essentiel. Je crois que le témoignage de Maxime était très éclairant de ce point de vue-là. Hein. Mm-hmm. Il y a vraiment cette idée, il y a un diktat social sur la façon dont doit être notre corps, et en particulier plus pour les femmes que pour les hommes. Et si vous voulez, il y a une sorte de confusion entre le poids idéal, qui est un poids tout à fait mythique, que ne font pas les Françaises et ne font pas les Français non plus. Le poids statistique des Français n'est pas le poids idéal. Le poids idéal, c'est souvent un poids d'un indice de masse corporelle mannequin, hein, d'un indice de masse corporelle inférieur à 18.
Oui.
Et le poids que font les Français, c'est plutôt 22, 23 d'indice de masse corporelle.
Dans votre livre, vous préconisez de manger selon un mode intuitif. Qu'est-ce que cela signifie exactement ?
Alors, manger sur un mode intuitif, ça veut dire manger naturellement, oui. comme mangent les gens qui n'ont aucun problème alimentaire et de poids. Mmh. C'est-à-dire, ils écoutent leurs sensations alimentaires, leur faim, ils en tiennent compte. Ensuite, quand ils mangent, ils font attention à ce qu'ils mangent. Mmh. Ils dégustent, ils savourent. Et puis, ils ressentent la sensation de rassasiement qui leur signale que, voilà, ils sont allés... au bout de ce que pouvait leur apporter leur aliment à un moment donné, et ils s'arrêtent. Mmh. Et puis, au niveau des choix alimentaires, ça c'est très important aussi, eh bien, ils choisissent les aliments qu'ils préfèrent, ceux qui leur paraissent sympathiques à un moment donné. Nos préférences alimentaires sont variables, c'est-à-dire que si vous mangez, disons, beaucoup de chocolat pendant quelques jours, finalement, vous allez avoir peu d'appétence pour le chocolat ensuite. Donc ça va se rectifier tout seul. Mmh. Sauf si vous êtes privé, si vous êtes dans le sentiment d'être privé, si vous avez le sentiment que le chocolat est interdit, alors là, il n'y a plus de limite. Chaque fois qu'il y en a, il faut absolument en manger parce qu'on a l'impression qu'après, il n'y en aura plus.
Mais lorsqu'on écoutait Isabelle, qui est dans un contrôle strict de l'alimentation, l'obsession de manger sain, est-ce une façon pour vous une façon détournée de contrôler son poids ? Et est-ce que c'est bien ?
Alors, ça peut l'être. En fait, manger sain, c'est pour la santé. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée que si on mange parfaitement sain, on va vivre beaucoup plus vieux, voire éternellement. Mmh. Mais aussi, c'est devenu une façon de contrôler son poids. Donc, l'histoire d'Isabelle, elle est très... Enfin, elle a fait tout le parcours des troubles du comportement alimentaire, finalement. Elle a commencé par de l'hyperphagie boulimique pendant une grande partie de sa vie, où elle a mangé des grosses quantités de nourriture sans pouvoir s'en empêcher. Et puis ensuite, elle a basculé dans l'anorexie mentale. Elle est passée à la boulimie vomissement. Et ensuite, elle s'est sortie de ça, finalement, en instaurant ce système d'orthorexie. Et souvent, l'orthorexie, c'est presque, je dirais, un mode de guérison de l'anorexie mentale. On voit ouais. beaucoup d'anorexiques mentales anciennes qui deviennent orthorexiques.
Alors, on sait que nos comportements alimentaires sont souvent liés à nos émotions. Quelles sont les solutions que vous pouvez peut-être nous apporter cet après-midi pour arriver à contrôler un peu plus notre poids ?
Alors, ce que disait Isabelle aussi, de ce point de vue-là, du point de vue des émotions, est très intéressant parce que je pense qu'elle a bien expliqué ce qui se passait.
Oui.
Elle a bien expliqué qu'en fait, elle mangeait probablement des aliments riches, hein, gras et sucrés,
oui.
Pour calmer, pour éviter les situations émotionnelles, pour éviter des situations qui devenaient pénibles pour elle. Et puis, peu à peu, finalement, elle s'est mise à éviter de plus en plus de situations et donc de devenir finalement hypersensible à ses propres émotions. Mmh. Et ça, c'est le pied dans l'addiction au comportement alimentaire. On va de plus en plus, chaque fois qu'on a un petit problème, on va faire appel à la nourriture, ça va nous calmer. Et plus on fait appel à la nourriture, eh bien, plus ça nous calme. Et plus, la fois d'après, on va encore faire appel à la nourriture. C'est un vrai cercle vicieux. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour en sortir ? Eh bien, tout d'abord, il faut rassurer les gens. C'est normal de calmer ses émotions avec de la nourriture, avec de la bonne nourriture. C'est ce que font l'immense majorité des gens, hein, c'est-à-dire... Quand je ne vais pas bien, quand je ne me sens pas bien, eh bien, je me dis que, par exemple, un bon repas avec des amis ou en famille,
un
ça va me faire bien,
ouais.
voilà, en mangeant des choses sympathiques. Et puis après, ben, je me sens mieux, et donc le processus s'arrête. Généralement, comme j'ai mangé beaucoup, ben, je n'ai pas faim pendant une certaine période, et sur le plan du poids, ça n'a pas de conséquence, parce que sur la semaine, je n'aurais finalement pas trop mangé. Ce qui se passe, c'est que quand on culpabilise de manger, alors ça ne se passe plus de cette façon-là.
Oui.
J'ai mangé pour calmer mes émotions, et là, je suis coupable, il faut que je me prive, il faut que je me restreigne, il faut que je contrôle, et à ce moment-là, on rentre dans le cercle vicieux du contrôle, mm-hmm. ce que les médecins appellent la restriction cognitive.
Mm-hmm. Et c'est là, en fait, qu'on arrive dans un dysfonctionnement totale par rapport à notre manière de nous alimenter. Vous restez en ligne avec nous, Gérard Feldhofer. Dans quelques instants, nous accueillerons Sophie. À 7 ans, sa fille se demandait déjà si elle n'était pas trop grosse.
Nathalie a 36 ans et témoigne au 39-21. Mon poids a toujours été un problème. Depuis que je suis enfant, toujours obsédée par mes kilos. Ne parlez que de ça parfois. J'ai fait des régimes, je me suis fait vomir car j'arrivais à me convaincre que j'en étais là à cause de la nourriture. Mon mari était désemparé, je lui reprochais même de m'aimer. Je suis suivie désormais, j'ai perdu 10 kilos et je commence à m'accepter.
Europe 1.
Comment sortir de l'obsession de son poids? S'accepter tel qu'on est, on vous écoute au 39-21. Zazie tout en crescendo sur Europe 1 avec Speed. Maigrir est votre obsession pour restaurer l'estime de soi, pour se plaire, pour aimer, être aimé, venez nous raconter. Vous êtes arrivé à vous libérer de votre obsession du poids. Comment avez-vous fait? Vous discutez avec Olivier Delacroix au 39-21.
Et nous sommes toujours en ligne avec le docteur Gérard Feldhofer, psychiatre, psychothérapeute et auteur de l'ouvrage « Maigrir, c'est simple et dans la tête » paru aux éditions Odile Jacob. Et avant d'accueillir Sophie, docteur Jean, j'ai une question qui concerne la morphologie et l'apparence. Vous dites qu'une personne en surpoids qui s'est amincie n'a pas forcément intériorisé cette nouvelle apparence. Comment accepter sa nouvelle morphologie alors ?
Oui, c'est vrai que... Alors c'est ce que les psychologues appellent des obèses minces. Oui. Ce sont des personnes qui ont perdu du poids, mais qui n'ont pas intégré cette perte de poids dans leur comportement et dans leur pensée, et finalement vont se comporter comme si elles étaient encore grosses. Mmh. Le fait... ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en particulier pour les personnes qui ont été en surpoids pendant leur enfance et leur adolescence, eh bien, lorsqu'elles maigrissent, par exemple, en fin d'adolescence ou au début de l'âge adulte, elles ont raté quelques étapes, en fait. Par exemple, l'étape de la séduction. Comment est-ce qu'on va se comporter pour une femme, pour une fille, avec des personnes du sexe opposé ou du même sexe? Et ça, finalement, c'est des choses qu'elles ne savent pas faire. Et donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens reprennent du poids. Ils se retrouvent amincis et ne sachant pas se débrouiller dans un monde où les apparences sont très importantes, où finalement, on va se comporter avec eux non plus comme quelqu'un qui est hors norme, mais comme quelqu'un de normal. Ils vont être un petit peu perdus. Mmh. Et du coup, une des façons de s'en sortir, c'est reprendre le poids.
Mmh. Alors, on voit combien le poids peut être au cœur de nos préoccupations et puis combien il peut être difficile, même si on a maigri, donc de continuer, en tout cas d'accepter notre nouvelle apparence, notre nouvelle morphologie. On va en parler justement avec Sophie, que nous accueillons tout de suite sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Sophie ?
Alors, j'ai 45 ans et je vous appelle depuis Paris.
D'accord. Alors, vous êtes la mère d'une petite fille, aujourd'hui âgée de 10 ans, mais qui, dès l'âge de 7 ans, a commencé à vous parler de son poids, malgré une corpulence normale. Pourquoi et que vous disait-elle ?
Alors, en fait, c'était la suite d'une virée shopping. On avait acheté plusieurs vêtements avec elle,
oui.
Et notamment des jeans. Et déjà, moi, j'avais eu beaucoup de mal avec elle de trouver pour trouver des jeans qui ne soient pas slim, des jeans juste normaux comme ceux des petits garçons.
Oui.
Et en fait, arrivée à la maison, en les enfilant, déjà, elle a eu beaucoup de mal à passer l'étape des cuisses. Et en l'enfilant jusqu'en haut, elle a eu du mal à le fermer. Et ce n'était pas la première fois que je voyais ça, puisque plusieurs fois par semaine, quand elle mettait des jeans, elle revenait à la maison le soir avec le ventre cisaillé, avec la marque de l'élastique sur le ventre.
Oui.
En regardant la taille, je me suis rendu compte que c'était une taille tout à fait adaptée à son âge. Et en comparant avec les vêtements de son petit frère, son grand frère, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une différence dans la façon dont les vêtements étaient taillés pour les garçons et les filles, et que justement les pantalons de ma fille étaient faits à partir de modèles avec des jambes ultra fines, type allumettes, sans cuisses, sans fesses et sans ventre.
Oui.
Et donc à la suite de ces essayages, elle m'a dit je suis trop grosse.
Mmh. Un peu comme Barbie.
Voilà, alors c'est ce que justement je lui ai expliqué, je lui ai dit tu n'es pas grosse, elle me dit si j'ai du ventre. Et je lui ai expliqué qu'en fait, oui, elle avait un ventre. Elle avait un ventre, elle avait des cuisses et que c'était absolument normal. Et que c'était plutôt les vêtements qui étaient mal taillés, plutôt qu'elle qui avait une morphologie non adaptée, hors norme. Mm-hmm. Et donc, je lui ai sorti des pantalons de son frère au même âge. Et en effet, on a pu comparer que la taille, les cuisses n'étaient pas du tout coupées de la même façon.
C'est assez inquiétant tout de même de vous entendre parler des inquiétudes de votre petite fille. Vous êtes d'ailleurs auteur jeunesse et vous avez récemment fait publier Les filles et les garçons peuvent le faire aussi aux éditions Grunt. Vous y parlez du combat de faire en sorte que les enfants ne soient pas influencés trop jeunes par les diktats. Vous avez vraiment remarqué qu'aujourd'hui, ces enfants, ils sont vraiment influencés par tout ce qui est réseaux sociaux, par toute cette publicité, en fait, partout autour d'eux.
Ah oui, absolument, et ça commence très tôt. C'est-à-dire que ma fille, elle a déjà des copines à 10 ans qui ont des comptes Instagram, je sais qu'elle regarde souvent. Et ce qui est assez inquiétant en tant que parent, c'est que même si nous, on leur apprend que la beauté est multiple, qu'il faut s'accepter tel qu'on est, malheureusement, on n'est pas les seuls prescripteurs. C'est-à-dire qu'il y a la télévision, il y a la publicité avec des corps ultra minces, retouchés. Il y a l'école aussi. À l'école, entre eux, les enfants sont en général assez durs. Ils font la police entre eux. La police aussi bien du corps que, par exemple, un petit garçon qui s'habille en rose va être insulté. Un petit garçon qui va jouer à la poupée, pareil. Et du coup, ce qui est assez inquiétant en tant que parent, c'est que même si on essaye de faire le maximum de notre côté en tant que parents pour éduquer nos enfants, il y a toute une partie de cette éducation qui nous échappe complètement et sur laquelle on n'a pas prise entre les réseaux sociaux, la publicité, l'école, les amis, la famille aussi peut avoir des comportements toxiques. Donc c'est ça qui est dur en tant que parents, c'est-à-dire qu'on est sans arrêt responsabilisés, surtout les mères. Mais on a toute une part de ça qui nous échappe.
En tout cas, il est certain, en vous écoutant Sophie, qu'aujourd'hui, cette génération, elle est plus exposée parce que les réseaux sociaux sont aujourd'hui au cœur de leur existence et que l'image y est devenue très importante, ne serait-ce, comme vous l'évoquiez, à travers ces influenceurs et ces influenceuses qui ont souvent le culte du corps parfait. Merci de votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans un instant, nous accueillerons Alexandre. Il est devenu coach sportif après avoir été en surpoids. Son corps est aujourd'hui une vitrine qu'il contrôle parfaitement.
Europe 1. Comme Sophie, au 39-21, vous vous êtes montré inquiet quand votre enfant vous a dit et qu'il pensait avoir un problème de poids. Venez nous raconter votre histoire au 39-21. La femme chocolat d'Olivia Ruiz avec ses hanches, ses formes, l'obsession de votre poids régit votre quotidien. Comment faire la paix avec votre miroir, avec votre balance, avec vous-même. Vous en parlez cet après-midi au 39-21 avec Olivier Delacroix.
Et nous allons accueillir dans quelques instants Alexandre, qui est aujourd'hui coach sportif et qui exerce un certain contrôle, presque à la limite du parfait, sur son corps. Docteur Gérard Apfeldorfer, j'aimerais revenir sur le témoignage de Sophie et de ces diktats de la minceur qui touchent aujourd'hui nos enfants. Parlez-nous de ça aujourd'hui, de ces enfants. Vous êtes confronté à ça aujourd'hui ? Comment les protéger ?
C'est un véritable problème. C'est un véritable problème. On a l'impression que l'école, ça commence dès la maternelle et ça se poursuit effectivement par la suite. Et on a vraiment l'impression que l'école est devenue une sorte d'école des troubles du comportement alimentaire. On organise finalement une sorte de diététisation des enfants, aussi ce culte de la minceur qui apparaît vraiment comme tout à fait nécessaire pour tous les enfants. Et ça, vraiment, c'est la mise en place des troubles du comportement alimentaire dont on a parlé, l'anorexie mentale, la boulimie et finalement l'obésité.
Ça commence donc, là, en fait, à cet âge-là.
Ça commence. Alors, on se rend compte, par exemple, les statistiques montrent que le premier régime chez les filles se fait avant l'âge de 10 ans.
Oui. Et d'un point de vue médical, vous trouvez ça plutôt inquiétant, docteur ?
Ah oui, c'est tout à fait de la folie, parce qu'il n'y a pas 80% des enfants qui ont un problème de poids. Mmh. Ce qui veut dire donc qu'il y a des enfants qui ont un poids tout à fait normal et qui se mettent déjà au régime pour pouvoir avoir ce corps idéal dont on parlait, qui est un corps plus mince que nature. Et ça, c'est vraiment l'engrenage dans les troubles du comportement alimentaire.
Mmh. Alors, on va justement en parler avec Alexandre, qui est aujourd'hui coach sportif. Bonjour Alexandre, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour, merci beaucoup.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
Alors, j'ai 35 ans et j'habite juste à côté de Mâcon.
Mmh. Alors, Alexandre, avant que nous parlions de votre histoire, que vous inspirent les réflexions du docteur Gérard Apfeldorfer ?
Personnellement, j'ai pas souffert de mon surpoids parce que j'ai été relativement actif et du coup, j'avais pas de surpoids quand j'étais jeune.
Ouais.
Donc, j'ai été actif. Hein, mes parents m'ont vraiment rapidement mis à des activités sportives, ne serait-ce que pour la bonne santé mentale de l'enfant, de ouais. manière générale. Mmh. Et ce qu'il y a, c'est que bah, voilà, j'ai pas souffert de surpoids avant mes 25 ans.
Alors, justement, on va parler de cette période-là puisque c'est quand vous vous êtes installé et mis en couple que vous avez pris beaucoup de poids. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Vous étiez complexé par votre corps là, à ce moment-là ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai suivi un petit peu le schéma classique des jeunes de cet âge-là, où on rentre dans la vie active. On faisait plein de choses avant, on rentre dans la vie active, on s'installe en ménage, et puis finalement, on arrête pas mal de choses. Moi, j'avais arrêté complètement le sport.
Oui.
J'avais arrêté toutes mes activités physiques, entre guillemets.
Mmh.
Et puis, j'étais dans la restauration, en apprentissage, donc la nourriture était omniprésente, et il s'avère que j'ai toujours été un vrai gourmand.
Mmh.
Et que du coup, là où je ne le payais pas dans mes jeunes années, au bout d'un moment, je me suis mis à payer la facture, entre guillemets, de ces calories que j'engendrais et que j'ingérais.
Mmh.
Ce dont je n'avais pas forcément énormément conscience, mais qui s'est vu après quelques années et suite à quoi j'ai dû réagir, quoi.
Et ça fait drôle, hein, lorsqu'on a été plutôt, on a passé une jeunesse, une adolescence et puis une jeunesse sans avoir problème de poids et que tout à coup, à 25 ans, ça vous tombe dessus.
Ah ça fait drôle, ouais. Ça c'est sûr, ça fait drôle parce qu'on se rend pas compte en fait. On en a peut-être un petit peu conscience, mais voilà, c'est quelque chose qui est tellement habituel de pouvoir manger sans compter que en fait on fait pas forcément gaffe, on en a pas vraiment conscience. Concrètement, on n'y prête pas attention en fait.
Alors Alexandre, vous restez en ligne avec nous. Dans quelques instants, nous allons continuer à parler de votre histoire et voir comment vous vous êtes pris en main en décidant de faire du sport et puis comment aujourd'hui vous êtes dans le contrôle presque parfait de votre poids.
Europe 1.
Quand votre silhouette, votre balance dans la salle de bain, votre maître couturière autour de la taille régisse votre vie, vous échangez avec Olivier Delacroix sur Europe 1 au 39-21. Lady Gaga dans le film Star is Born avec Always Remember Us This Way sur Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix et on se demande cet après-midi comment sortir de l'obsession de notre poids.
Et nous sommes toujours avec Alexandre qui nous expliquait qu'à l'âge de 25 ans, il s'était mis à prendre du poids en étant en couple. Il s'était aperçu que sans le voir, il avait pris quelques kilos en trop. Alors Alexandre, vous avez décidé de vous mettre au sport afin de perdre du poids. Est-ce que ça a été difficile de combattre ce surpoids que vous n'aviez pas vu venir ?
Ouais, tout à fait. Alors ça a été très difficile parce que j'ai pas eu le déclic tout de suite. J'ai fait quelques réactions, j'ai réagi, on va dire assez rapidement. Bon, à 25 ans, j'ai commencé à me rendre compte que voilà, je prenais un petit peu de poids, mais c'était pas très alarmant. Et puis bon, le temps est passé. Et entre-temps, j'ai entrepris quelques activités physiques par-ci, par-là. Je me suis dit que j'allais aller courir, je me suis inscrit en salle de sport. Enfin voilà, ce que fait un petit peu tout le monde, sans y mettre énormément de volonté, ni de motivation, ni de discipline. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est que 5 ans après que j'ai vraiment réfléchi. J'ai vraiment réagi.
Et alors ?
Et donc, c'est à l'âge de 30 ans, lorsque j'ai eu ma deuxième fille, que je me suis mis un gros coup de pied aux fesses et que je me suis dit, là, Alex, c'est plus possible, il faut que tu fasses quelque chose. J'étais à presque 90 kilos pour 1m65.
Mmh. Donc,
ce qui fait pas mal.
Ouais.
Moi, j'avais l'habitude de plutôt être autour des 70. Et puis, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Et je me suis posé la question profondément de pourquoi est-ce que toutes ces années ça n'avait pas marché et qu'est-ce qui va faire que ça pourrait marcher à partir d'un moment où je vais le décider pour de vrai.
Mmh.
Et c'est ce qui a fait que aujourd'hui je pratique ce métier de coaching sportif et que j'accompagne les gens à découvrir leur vérité à eux, leur pourquoi, leur déclic. Et c'est ce qui, à mon avis, fait beaucoup, beaucoup de différence parce qu'aujourd'hui on fait des choses sans forcément se poser des questions de pourquoi est-ce qu'on veut le faire.
Et justement, en fait, le sport est finalement devenu une passion. et puis ensuite votre métier. Alors justement, dans la pratique de ce sport aujourd'hui, il y a aussi un programme alimentaire qui accompagne votre contrôle.
Alors moi, j'ai tout de suite allié les deux, donc sport et alimentation.
Oui.
Dans l'alimentation, moi qui ai toujours été gourmand, je me suis toujours dit qu'il ne fallait pas imposer de frustration parce que ça allait être quelque chose de très très difficile. Donc je me suis autorisé régulièrement des excès pour pouvoir avoir le contrôle de mon mental en fait.
Oui.
Mais pour moi, le contrôle du poids, c'est vraiment un combo de l'alimentation, du sport et d'un certain état d'esprit qui va mêler motivation, discipline, persévérance, etc.
Vous êtes devenu un modèle pour ceux qui vous suivent aujourd'hui ?
Alors, ça a été un petit peu involontaire. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai atteint mon poids et le corps idéal, entre guillemets, à ce moment-là, c'est que je l'ai beaucoup partagé sur les réseaux sociaux. Et c'est drôle parce qu'on en parlait justement, enfin, vous en parliez avec Sophie tout à l'heure, les réseaux sociaux et les jeunes. Et dans le sens inverse, et ce qui prouve que les gens sont très, très présents sur les réseaux sociaux, c'est que moi, aujourd'hui, je travaille uniquement avec les réseaux sociaux.
D'accord.
Et ce qui se passe, clairement, c'est que dans le culte du corps, entre guillemets, qui aujourd'hui est ma vitrine, hein, parce que clairement, si je veux prétendre à pouvoir aider les gens à se sculpter, à atteindre le corps qu'ils ont envie d'avoir, il faut que moi-même, je puisse prétendre à un corps qui soit qui corresponde à l'attente, entre guillemets.
Exactement.
Voilà. Donc aujourd'hui, moi, je le fais avec plaisir. Mmh. Je le fais avec plaisir. J'aide beaucoup, beaucoup de monde. Après, le seul petit problème dans tout ça, c'est que j'ai toujours fait ça avec la passion et que je m'oublie un petit peu. Je m'oublie de temps en temps. J'aide beaucoup les gens. Je passe beaucoup de temps avec eux à leur donner des conseils, à les coacher, etc. Du coup, j'ai tendance de temps en temps à me faire passer en second plan.
Mm-hmm.
Du coup, ben, j'ai toujours cette obsession du petit bourrelet par-ci, par-là. Ça ne m'a pas quitté, malheureusement.
Bon, mais en tout cas,
et
aujourd'hui...
Donc, je suis accro, quoi.
Vous êtes accro, mais vous avez aujourd'hui atteint tout de même un poids normal. Hein. Vous avez repris confiance en vous, on l'entend, puisque à travers les réseaux sociaux, vous coachiez aussi les autres. Vous êtes devenu un exemple. Et j'ai l'impression que c'est une victoire pour vous, mais c'est aussi l'espoir d'une victoire future pour ceux qui vous suivent. Merci mille fois pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1, Alexandre. Merci aussi à Maxime, à Isabelle, à Sophie et au docteur Gérard Abteldorfer pour ses éclairages. C'est la fin de cette émission. Le poids est une question sensible, on l'a vu. Il varie selon notre état psychologique, mais il le détermine aussi. Pour l'apprivoiser, il faut s'en détacher. Il ne faut pas oublier que nous avons tous une morphologie différente et que le poids parfait n'existe pas vraiment. L'important n'est pas de correspondre à des standards ou à des normes, mais de se sentir bien dans sa peau. On peut manger un carré de chocolat sans culpabiliser. Tout est question de proportion, ne l'oubliez pas. Si vous êtes mal dans votre peau, si vous souhaitez maigrir, n'hésitez pas à vous adresser à un spécialiste qui saura vous accompagner. Et puis, bien sûr, on peut en parler avec tout le monde sur les réseaux sociaux.
Vous échangez, vous partagez vos expériences de vie sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1. N'hésitez pas. Et puis Instagram, Olivier Delacroix officiel.
Europe 1.
Lundi, nous parlerons ensemble des adultes contraints de retourner vivre chez leurs parents. Une décision souvent difficile quand on a 30 ou 40 ans. Alors, si un événement vous a contraint à retourner vivre chez vos parents, si vous avez dû accueillir vos enfants ou vos petits-enfants chez vous, appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire. Nous serons là pour vous écouter. Merci à Katia Maxime et à Angèle Châtelier, assistée d'Armel Thiberge à l'éditorial de cette semaine. Merci aussi à l'excellent Boris Paczynski à la réalisation. Et merci à vous, ma chère Ambline, de me porter chaque semaine sur cette belle radio qui est Europe 1. J'étais ravi de passer cet après-midi avec vous. Je vous souhaite bien évidemment une belle fin de journée.